Radio Caravane.
Radio Caravane. De l'ombre des coulisses
à la lumière de la piste.
Radio Caravane.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Radio Caravane. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Justine de Faro Céleste, actuellement en résidence à la Grainerie. Bonjour Justine.
Bonjour.
Bonjour Justine.
Tu es à la Grainerie dans le cadre de la préparation de votre pièce Axe de Circus avec la compagnie Faro Céleste. Peut-être que pour commencer, tu peux un peu nous parler de toi.
Oui, alors je suis trapéziste à la base et aussi un peu comédienne. Et donc, pendant longtemps, j'ai travaillé comme interprète dans différentes pièces de théâtre, de danse, de cirque. J'ai tourné longtemps en caravane avec une compagnie qui s'appelle Rasposo. Et maintenant, ça fait quelques années que je développe mes propres projets. Donc, j'ai créé la compagnie Faro Céleste en 2015, je pense, il y a une dizaine d'années. Au début, c'était vraiment juste pour ménager des espaces de recherche à côté de ma pratique, pour pouvoir mélanger en fait mes différentes passions, en tout cas mes différentes sources d'inspiration, le théâtre, le cirque, mais aussi les arts visuels. Et puis, finalement, j'ai fait un premier spectacle qui est sorti en 2021, qui était un solo, qui s'appelait Ophélia Song. Et là, c'est mon deuxième spectacle, donc qui s'appelle Hack the Circus. Et cette fois, on est quatre en scène.
Quatre en scène, voilà. Mmh. D'accord. Et du coup, qui compose un peu donc, cette compagnie? Vous êtes...
Alors bon, c'est une compagnie, on n'est pas énormément, c'est une toute petite compagnie, mais pour le moment, il y a quand même là, c'est pour le premier spectacle et pour ce spectacle aussi, je travaille avec le même créateur son qui est Thibaut Lamy, qui lui est créateur son, ingénieur son, qui travaille dans le théâtre depuis de nombreuses années, qui a été musicien aussi avant. Et donc là, il aime beaucoup le sound design. Donc là, c'est la première semaine de résidence avec lui. Donc là, on travaille sur une ambiance sonore pour la pièce. Et c'est aussi la deuxième fois que je travaille avec Eugénie Bernachon, qui est aussi ma sœur, en fait, et qui est comédienne. Et pour le premier spectacle, elle m'avait aidée à la mise en scène. Et là, sur ce deuxième spectacle, il y a beaucoup de choses qui ont inspiré ce spectacle, mais en particulier l'envie de travailler avec trois femmes, trois artistes que je trouve super inspirantes, qui sont donc Eugénie, ma sœur, qui est une super comédienne et qui est aussi une autrice et une chanteuse. Et puis il y a Zoé Mestre qui est trapéziste et qui est aussi professeure de trapèze. Il se trouve que ça a été ma professeure de trapèze pendant de nombreuses années. Encore aujourd'hui, je suis des cours avec elle. Et la quatrième femme, c'est Julia Christ, qui est danseuse, équilibriste. Donc, c'est des femmes très inspirantes. Et c'est la première fois que je travaille avec elle. Donc, c'est un peu parti de l'idée de créer une communauté éphémère de femmes dans un espace hors du commun, quoi, hors du quotidien.
Et quelles sont les contraintes techniques, en fait, de mélanger toutes ces choses-là de création? C'est pas commun, c'est quand même assez difficile, surtout quand on est issu d'un monde comme le théâtre ou le cirque.
Tout à fait, c'est très très compliqué et ça pose d'énormes questions d'écriture. Et là on a la troisième semaine, mais comme on a une échéance au mois de mai qui est assez stressante, la question se pose particulièrement cette semaine. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des éléments très concrets de mise en place d'objets techniques, c'est-à-dire utiliser des Arduino, des jacks, des détecteurs de lumière, des buzzers pour faire des effets, et en même temps trouver un mouvement qui soit toujours circassien. Donc nous, on n'a aucune connaissance en électronique, mais on travaille avec une experte qui s'appelle Alice Giordani, qui a un collectif qui s'appelle Data Paulette et qui nous aide pour tout ce qui est connaissance des objets électroniques, compréhension de l'univers du hackerspace aussi, parce que donc j'ai pas à expliquer qu'on travaille dans un hackerspace. On a bénéficié d'une résidence laboratoire dans un hackerspace à Paris. Et donc là, on travaille en parallèle aux résidences au plateau. On fait que de la soudure, des branchements, de la programmation, du code. Et ensuite, on essaye de transporter cette matière-là sur scène en tissant avec des matières plus circassiennes, avec de la suspension, avec des lancers de tournevis, avec des équilibres sur la tête. Effectivement, c'est un peu compliqué. C'est le challenge actuellement.
Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est un hackerspace pour les novices qui vont nous écouter et nous dire comment vous avez eu l'idée, l'envie de travailler avec des gens qui sont issus de l'électronique?
Bien sûr. Un hackerspace, c'est un lieu qui en général est autogéré, qui est un endroit où on collecte, on ouvre, on démonte des objets électroniques, des objets par exemple des ordinateurs, des imprimantes, des fers à repasser, tout un tas d'objets du quotidien qui sont obsolètes, qui ne fonctionnent plus. On les démonte, on extrait des composants électroniques qu'on va ensuite réutiliser soit pour réparer certains objets, soit pour construire d'autres objets. C'est un endroit où en fait on se frotte de manière assez concrète aux objets techniques. Il y a une notion de bricolage qui est à la fois est liée ici à la technologie, et donc on est vraiment dans une approche de la technologie qui est bien loin de l'intelligence artificielle. Il se trouve que j'ai connu Alice parce que c'était la copine de mon frère et que j'habitais avec eux et que je les voyais bricoler des choses incroyables et parler d'un monde qui me semblait vraiment parallèle et auquel je n'avais pas accès, et je trouvais ça complètement fascinant. Et effectivement, le spectacle est hyper loin, et en même temps, j'aime bien dans le cirque tout ce qui est lié au bricolage, aux objets techniques. Et je trouve que dans l'univers du hackerspace, il y a ce rapport aux objets techniques qui se rapproche du bricolage, qui pourrait pour moi aussi presque se rapprocher de faire son jardin. En tout cas, il y a un lien très organique à la technologie que je trouvais vraiment très intéressant à traiter et à essayer de rendre un peu visible, parce qu'en général, c'est des espaces qui sont plutôt clos, qui sont fermés, même si tout le monde est bienvenu, mais en tout cas on les connaît pas forcément. Il y a peut-être les Ripper Café qui ont un peu plus de visibilité, mais c'est pas forcément toujours de notoriété publique de savoir qu'en fait on peut démonter un téléphone. Souvent c'est impressionnant, et moi ça m'a donné envie, alors que je n'y connaissais rien, de pouvoir me frotter à ça, à la possibilité de démonter des téléphones, de les remonter, de comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur et comment ça pouvait fonctionner aussi, parce qu'on est entouré de plein d'objets qui comportent des microprocesseurs, et en fait on ne sait pas trop comment ça fonctionne, c'est un peu une sorte de magie. Et voilà pourquoi j'ai eu envie de faire ce spectacle, et aussi parce qu'on est une communauté de femmes là, dans ce spectacle, on met en scène 4 femmes, donc c'est déjà une petite communauté, et je me demandais, on est à l'œuvre, mais à l'œuvre de quoi? Et en fait, on est à l'œuvre avec des objets technologiques, parce que pourquoi pas, en fait. En général, on voit plutôt des hommes qui sont en train de bricoler, des hommes jeunes, et nous, on est des femmes pas toutes jeunes, et on bricole des objets. Il y avait aussi cette envie de créer un décalage dans l'image, dans la représentation, quoi.
Avec la montée du numérique et des nouvelles technologies, comment est-ce que vous avez changé votre façon de travailler?
Il y a quelque chose qu'on utilise dans la technologie et que je trouve on retrouve maintenant au cirque grâce à la vidéo, c'est la notion d'open source. Parce que, en fait, pendant longtemps, dans le cirque, les gens travaillent à leurs figures, et puis maintenant, avec la vidéo, on peut travailler des figures et travailler des figures qu'on a directement prises. Sur la vidéo d'une autre personne. Donc, et ensuite, on peut la transformer. Ensuite, on peut se refilmer et la remettre sur le net. Donc, en tout cas, j'ai l'impression que cette notion d'open source qui vient quand même de la technologie a changé pas mal de choses dans la manière de travailler du cirque. Et après, pour le reste, en tout cas, moi, dans ce que je fais, il y a plutôt ce truc où je me pose des questions parce que je vois la montée de l'intelligence artificielle et en même temps les enjeux climatiques. Et en tant qu'artiste, on nous questionne toujours sur les enjeux climatiques et en même temps, on a un peu cette contrainte de s'intéresser à l'intelligence artificielle. Et du coup, c'est aussi pour ça que je me penche sur les hackerspace, parce que c'est un endroit qui sont à la fois qui se positionnent par rapport au réemploi et en même temps qui sont quand même connectés à la technologie. Et je trouve que c'est un endroit intéressant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'intéresse de creuser là, de représenter ces espaces qui sont en fait des possibilités, qui ne sont pas high-tech et qui ne sont pas non plus « on refuse tout ». Quoi. Voilà. Après, je ne suis pas une professionnelle de la technologie, mais comme ces dernières années, on a vu beaucoup de vidéos sur scène, je me pose aussi la question de ça. Et ça, c'est quand même ça qui a beaucoup changé, je trouve, ces dernières années. C'est la vidéo.
Voilà. Finalement, c'est une manière de sensibiliser un petit peu à ce nouveau monde qui se met à nous entourer, de tout ce qui est l'IA, etc. De moins se sentir perdu par toute cette technologie. Donc, de comprendre comment ça marche, au final. Et comment, en tant que compagnie, vous arrivez à sensibiliser le public face à toute cette actualité, ces nouveautés comme l'IA qui arrivent?
Déjà, j'ai l'impression que c'est en donnant une possibilité de représentation assez concrète. Donc, en emmenant dans un univers où cette technologie-là est fortement présente et en rendant compréhensible ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est un challenge aussi, c'est-à-dire donner à voir des manipulations techniques et voir et montrer aussi tout de suite les conséquences, quoi. C'est-à-dire que là, par exemple, on travaille sur un détecteur de lumière qui va créer du son. Et ben, tout de suite, on fait le branchement, on fait la programmation et tout de suite, on entend qu'il y a quelque chose. Et le challenge, c'est de rendre visible toutes ces manipulations et de montrer ce que ça va provoquer tout de suite et comment on peut le modifier en direct. Donc voilà, je dirais avant tout, c'est ça, c'est donner une représentation de possibilités. Et là, en l'occurrence, on travaillait dans un univers de science-fiction, en fait. Mais on se projette dans un futur proche, disons, on est en 2050, et on présente un monde où, finalement, on se relie à la technologie et c'est intégré, quoi. C'est intégré à notre manière de vivre et c'est ça ce qu'on essaye de représenter.
Et est-ce que ce rapport à la technologie, c'est une façon de réfléchir au vivant ?
Bah, tout à fait, parce que justement, il y a quand même les plantes aussi dans la pièce. Dans ce spectacle, ce sont des femmes qui donc démontent des objets électroniques, récupèrent des composants pour ensuite construire autre chose. Et leur objectif, c'est de créer de la lumière avec les plantes. Donc en fait, on essaye de trouver une circulation entre le corps humain, les végétaux et l'électronique, comme on essaye vraiment de brancher tout ça ensemble pour imaginer, inventer une histoire où tout ça fonctionnerait ensemble. Donc voilà comment on essaye de trouver un lien entre le vivant et l'électronique sans être complètement collé, c'est-à-dire que je vais faire un mouvement et il va y avoir une réaction. Mais on essaye de trouver une circulation plutôt entre toutes ces choses. Le mouvement, les plantes, l'électronique.
Ok. Ok, ouais, parce que il y a une forme de, dans une question un peu technique, de, je sais pas, ouais, de dialogue entre la plante et la lumière, par exemple, en fait. Est-ce que c'est une sorte de, c'est passif au final, la plante, ou est-ce qu'elle a vraiment elle joue vraiment sur la lumière, ou est-ce que ça aurait pu être
Bah déjà que dans le cycle des plantes, elles ont besoin de lumière pour vivre. Donc là, on essaye un peu d'inverser. C'est-à-dire que ça va être les plantes qui vont créer de la lumière, dont elles ont besoin pour vivre, en fait. Donc ça continue un peu la circulation. Alors après, le rapport à la plante, elle est là. Et c'est un objet auquel on apporte autant de soins que les objets électroniques sur lesquels on va se pencher. Il y a plus ce rapport là, en fait, que la plante, elle va être au même endroit que les objets technologiques.
Et du coup, ce serait plutôt une utopie ou une dystopie ?
Moi, j'aime bien penser que c'est plutôt une utopie. Dans un monde un peu post-apocalyptique, il y a quand même quelque chose qui est à la fois sombre et à la fois plein d'espoir. Voilà, je pense que la dystopie, c'est déjà c'est maintenant, en fait, donc ouais. Finalement... en tout cas, par rapport à la question sur la dystopie ou l'utopie, je vois mal comment est-ce que tout d'un coup, on pourrait jeter toutes les technologies et ne plus vivre avec, en fait, parce qu'on est tellement habitué, on est tellement à un endroit où il y a plein de choses qui sont super, que la question, c'est plutôt comment on vit avec quand on a des contraintes par rapport à ça, quand il y en a moins, quand finalement, on peut pas acheter à l'infini des téléphones, mais il faut les réparer. Enfin, il y a plus... Voilà, c'est plutôt ça la question, en fait. Est-ce que ce serait ça l'utopie ? Est-ce qu'il y a une possibilité après sans que ce soit complètement la disparition totale ?
Ouais, c'est ça, un retour finalement, en fait, un peu en arrière, quoi. Peut-être plus justement quand la technologie n'était pas aussi présente.
Peut-être, ou peut-être intégrer le fait qu'elle est de toutes les façons présente et qu'on revient quand même à des techniques un peu plus anciennes qui cohabitent avec des techniques plus récentes. Enfin, il y a ce truc-là, d'espèce de collage. Des différentes techniques.
De manière générale, comment voyez-vous l'avenir du milieu culturel et des arts vivants ?
Eh bien, je le vois quand même de manière très compliquée, mais justement, je me dis, il faut qu'on fasse ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc là, Aujourd'hui, par exemple, ce spectacle qu'on est en train de créer, bah, franchement, on a vraiment pas les moyens de le créer, quoi. On n'arrive pas à trouver de production. C'est très compliqué. Donc, on a une échéance. Là, on a eu quelques prix. C'est chouette. Et je vois autour de moi à quel point c'est compliqué pour tout le monde de trouver des productions. Et donc, je me dis, en tant qu'artiste de cirque, inspiré de tête de rue et tout, on a peut-être pas mal de possibilités d'être tout terrain et de s'inspirer du réemploi, même avec les formes artistiques. Donc, en ce moment, je rêve des formes qui retournent dans la rue comme à une certaine époque, même si, en gros, l'idée, c'est d'essayer de rester positive, même si optimiste surtout, même si, l'avenir est quand même un peu bouché. Donc là, en ce moment, ma solution, en tout cas, c'est avenir immédiat, quoi. Le présent, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Parce que sinon, je ne vois pas comment... Enfin, c'est quand même assez mal parti, quoi.
Comment lutter, finalement, et s'organiser pour un avenir culturel?
J'ai pas de solution comme ça, mais il y a un truc que j'aime bien, que j'ai traversé pas mal avec une compagnie avec qui j'ai travaillé et que j'essaye de continuer aujourd'hui, c'est de trouver des ponts entre les mondes. C'est-à-dire que je trouve que le monde culturel, s'il reste... si on n'arrive pas à trouver des ponts avec des gens qui vont jamais au théâtre, qui écoutent pas la radio, en fait, et il y en a beaucoup, énormément... je vois pas comment on peut continuer à créer. Bon, je m'explique mal, mais par exemple, dans le milieu des hackerspace ou des Fab Labs, il y a plein de gens, ça les intéresse pas du tout, hein, le cirque. Et pourtant, il y a plein de gens du cirque, ils sont pas forcément intéressés par le hackerspace. Pourtant, il y a plein de techniciens du spectacle vivant qui utilisent les Arduino pour trouver des manières de faire la lumière ou du son. Il y en a plein. En fait, il y a plus de ponts entre les mondes que ce qu'on pense, quoi. Et moi, je trouve que c'est beau d'essayer de pouvoir communiquer et de créer des ponts entre les différents mondes, quoi. Le monde culturel, le monde technologique, le monde sportif.
Ok.
Mais j'ai pas vraiment de solution concrète.
Pas une mince affaire.
Non.
Et pour conclure cette interview, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur scène ou en ligne?
Eh bien, pour l'instant, sur scène, nulle part. On va faire une présentation publique le 25 mars à l'Espace Périphérique à Paris. Mais c'est juste une ouverture de résidence, c'est-à-dire que c'est vraiment du travail en cours. Et ensuite, notre prochaine étape, c'est donc la finale de Circus Next au mois de mai, à Paris, à la Haute Théâtre de la Cité Internationale. Mais c'est une échéance qui n'est pas publique.
Très bien. Merci beaucoup à notre invité. Merci pour votre temps et vos réponses. Merci à vous de nous écouter. Et on vous dit à la prochaine fois sur Radio Caravane.
Radio Caravane est un projet d'éducation populaire et de médiation culturelle, proposé par la Grainerie et les associations Médias Communs et Yves Assam Studio.
Un groupe de jeunes adultes en parcours d'insertion s'initie aux techniques radio et web média.
Ils et elles couvrent la programmation de la Grainerie en réalisant des émissions et interviews diffusées sur une dizaine de radios partenaires.
Ce programme est placé sous licence libre Creative Commons, attribution, pas de modification, pas d'utilisation commerciale.
Retrouvez tous les podcasts sur radiocaravane.net.